C'est assez difficile d'avoir des témoignages de parents jumeaux. Ouais, c'est du bonheur pur, en fait. Je pensais pas que je pourrais aimer autant des petits êtres vivants. D'ailleurs, je pense que pour l'égalité des sexes, il faut que tout le monde ait des jumeaux. Voilà. Ça va aplanir le problème de la répartition des tâches.
Être père aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé. Dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent, à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience. Aujourd'hui, je suis à Dunkerque avec Kevin Ambeloui, qui est l'heureux papa de deux petites jumelles qui viennent d'avoir 5 mois et demi. Donc, elles sont nées en novembre 2021. Kevin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la période de grossesse de votre compagne? Comment vous avez vécu cette période de grossesse?
Cette période de grossesse, en réalité, ça a été une succession de moments. Ça va de l'annonce. En fait, même avant l'annonce, ça va de l'idée de « tiens, est-ce qu'on ferait pas un, et dans mon cas, des enfants » jusqu'au moment où on arrive... Alors pour mon cas aussi, une menace d'accouchement prématuré. Donc ça fait partie des événements qui, quand on les vit, sont inquiétants. Puis une fois qu'on les a vécus, sont formateurs, parce que en quelque sorte, c'est un entraînement à la vraie arrivée de bébé. Et donc le moment de la fissure de la poche des os et de se dire « ok, on doit y aller, c'est le moment, c'est le grand jour ». Sur l'idée de la conception, ça a été extrêmement naturel et extrêmement rapide. Donc au moment où... Moi, j'avais passé l'âge des 30 ans, je m'étais dit, à 30 ans, je ne sais pas pourquoi, c'était une idée que je m'étais mis dans la tête, j'aimerais être père. Bon, ma compagne est un petit peu plus jeune que moi, elle s'était dit, toi, tu es plus vieux, hein, moi, pas tant que ça. Alors, elle n'est pas si jeune, hein, elle a 27 ans, mais ce n'était pas forcément tout de suite dans ses projets. Et puis, notre vie avançant, on s'est dit, pourquoi pas, le stérilé est parti, et puis on s'est dit, est-ce qu'on y repart tout de suite? Essayons, et on verra bien. Et on a vu très très vite, puisque très rapidement, quand je dis très rapidement, c'était presque immédiat en réalité, hein, on a commencé à avoir quelques petits signes. Et d'ailleurs, l'anecdote, elle est assez rigolote, puisque au moment où c'était un matin, je m'en souviendrai forcément toute ma vie, un matin, je trouve que le moment de se préparer, donc le passage aux toilettes, le temps de faire le café, on avait encore un chien à l'époque, c'était beaucoup plus long que d'habitude. Je n'arrivais pas, ma compagne n'était pas là, on avait plein de choses à faire. Donc moi, je me mets à râler, je commence à me préparer, je vais sortir le chien. Et je ne la vois toujours pas arriver. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je la vois arriver toute penaude et immédiatement, j'ai compris. C'était instinctif, c'était naturel. Et j'ai compris que là, ça y était. Et donc, on regarde le test de grossesse. Alors, je me suis mis tout de suite à pleurer. L'émotion, elle est arrivée. Et puis après, on s'est dit, le grand sourire, c'est beaucoup de bonheur, aucune inquiétude. On voit le test de grossesse qui nous dit positif, on prend tout de suite rendez-vous pour la prise de sang, on fonce, on voit le taux d'hormones qui est très élevé, on s'étonne un petit peu, puisque un taux d'hormones très élevé, alors on fait comme tout le monde, on va regarder sur Google, et on se dit c'est que ça doit être plus vieux que ce qu'on pensait. Après, on aura compris pourquoi est-ce que ce taux d'hormone était si élevé. Et donc, on commence à prendre rendez-vous auprès de notre maternité. Donc nous, on travaillait à l'hôpital, tous les deux. Donc ça a été plus facile pour nous de prendre les rendez-vous. Et vient le moment de l'échographie de datation. Et donc là, on a une nouvelle surprenante et une petite déconvenue, puisqu'on nous dit, c'est bizarre, votre taux est très élevé, mais on ne peut pas encore dater, c'est trop tôt. Et puis, c'est là où j'ai une deuxième anecdote, et c'est le moment où on apprend qu'on, dans mon cas, on va être père d'enfants jumeaux. puisque c'est des plaisanteries. Tout le monde en général, l'entourage dit « Ah, bah, imagine c'est des jumeaux, imagine c'est des jumelles. » On dit « Oui, oui, bien sûr, on pense toujours que c'est chez le voisin. » Mais en fait, quand ça vous arrive. Hein. Et donc là, la sage-femme, très sympa, l'atmosphère est tamisée, on est très bien accueillis. Moi, je suis un petit peu angoissé, j'ai jamais assisté à une échographie de ma vie. Mais finalement, bon, les paroles sont douces. Moi, j'avais peur de la salle blanche, mais en fait, non, vraiment, c'est confortablement installé, on est pris en charge par les professionnels. Moi, je regarde l'échographe, tout se passe bien. Et là, la sage-femme nous dit, et donc, en l'occurrence, c'était la médecin gynéco, j'ai deux bonnes nouvelles. Et donc là, moi, ma compagne se met immédiatement à rigoler nerveusement. Bon, je trouve que c'est pas très drôle. Hein. Moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends que, en fait, j'ai un train de retard, je suis un peu lent. Donc, elle nous dit, ah, c'est une grossesse évolutive. Et donc, ça veut dire que la grossesse a bien pris. Bon, moi, je suis super content. Et puis j'attends, et rien ne vient. Et ben je pose la question, je dis, mais c'est quoi l'autre bonne nouvelle? Et là, on me dit, bah, c'est une grossesse évolutive, pour les deux bébés. Et donc là, j'ai un moment de flottement, j'ai des mouvements nerveux de la main où je me mets à caresser ma compagne en lui disant, mais tu sais, ça va aller, hein, ça va aller. Alors que je ne savais rien du tout si ça allait aller. Et puis, après, on repart de ce moment-là. C'est un moment très particulier d'apprendre qu'on va avoir des enfants jumeaux, parce qu'il y a... On est angoissé, on est heureux, on se dit tiens, pourquoi c'est nous? Donc là, on se met à appeler les proches. Hein, donc la période de prudence, on attend 3 mois avant de prévenir tout le monde, histoire d'être sûr que la grossesse est bien évolutive. Donc ça, on l'oublie complètement quand on a des enfants jumeaux. Hein. Donc dans mon cas, j'ai tout de suite appelé ma mère en disant bah, tu sais ce qui se passe, je vais avoir des jumelles, comment ça va se passer? Et puis j'ai très peu paniqué. Pour ma compagne, ça a été un peu plus difficile. Une bonne quinzaine de jours quand même d'anxiété, d'inquiétude sur la reprise du travail, sur la gestion du quotidien, quand on voit des témoignages souvent, la parole se libère sur les dépressions postpartum, sur la charge mentale, sur les difficultés ressenties, mais on se dit ça c'est pour un enfant, alors fois deux, pff, ça va être une catastrophe. C'est assez difficile d'avoir des témoignages de parents jumeaux, en fait. Hein, on est vraiment dans une petite catégorie de parents, une sorte de cercle fermé. Et puis, là, on rentre dans un cycle d'examen continu, parce qu'en fait, une grossesse GMLR, c'est une grossesse pathologique. Et donc, on a des échographies tous les 15 jours, on a des rendez-vous médicaux permanents et on est tout le temps amené à discuter, à échanger, etc. etc. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé sur l'annonce. Et puis, on est rentré dans le cycle, tout s'est bien passé, on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de complications. Moi, je mettais un point d'honneur à assister aux échographies, que celle de tous les trimestres, hein, premier, deuxième et en l'occurrence le troisième trimestre. Donc ça c'était vraiment très important pour moi. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir les placer soit tôt le matin, soit en fin de journée, parce que ça c'est un vrai sujet hein, de préoccupation pour les parents et notamment les pères qui souhaitent assister aux échographies. Souvent elles sont mal placées. On n'est pas en congé maternité, on n'a pas de congé de paternité d'accueil avant finalement l'arrivée de bébé. Donc pour s'organiser afin d'y assister, quand on n'a pas des horaires très flexibles, bah, ça peut parfois être un peu complexe. Mais là, on a réussi à y aller. J'ai assisté à chaque fois, parfois les plus beaux moments de ma vie. Donc les bébés bougent très vite. Donc ça, c'était vraiment une super expérience où j'ai systématiquement quand même été inclus, je pouvais poser mes questions. Donc il y a une vraie écoute que j'ai ressentie au niveau du corps médical, des sages-femmes notamment. Et puis on avait comme ça ce cycle, cette continue en fait de monitorage de l'évolution de bébé. Hein. Donc on avait très peur quand même, parce que quand il y a une grossesse GMLR, il y a une inquiétude qui arrive. C'est le syndrome transfuseur-transfusé. On a peur qu'un des bébés grossisse et pas l'autre. Et ça, vraiment, ça fait peur. On s'est posé avec ma compagne. On avait énormément peur de ça et ça ne s'est pas produit. Heureusement, on a découvert que c'était des vraies jumelles. Donc, en gros, ça s'appelait une grossesse monocoriale biamniotique. Donc, c'était une seule poche et deux placentas, ce qui n'est pas le pire scénario. D'accord ? Le pire, c'est quand il y a un seul placenta, une seule poche. Puisque les deux bébés sont vraiment dépendants l'un de l'autre. Donc, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Mmh. On a été assez rassurés. Alors, pour le coup, mes petites jumelles ne se ressemblent pas trop. Donc, est-ce que c'était pas une bêtise? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça a été, on l'a bien vécu. Jusqu'au moment où il y a eu, comme je le disais, cette MAP, la menace d'accouchement prématuré. Et donc, en fait, un soir... Non, ça a commencé le matin. Ma compagne me dit, j'ai mal au ventre. D'habitude, elle s'est bien portée quasiment jusqu'au bout, puisqu'un terme de grossesse GMLR, c'est en gros un mois avant. C'est toujours plus court. Donc, parce que les deux bébés évoluent plus vite. Et donc là, elle me dit, j'ai mal au ventre. Je dis, bon, bah, fais attention, repose-toi, prends soin de toi, tu me tiens au courant. Et donc, je lui envoie des messages toute la journée. Le midi, elle m'appelle, elle me dit, ah, j'ai fort mal au ventre, mais ça va aller. C'est bizarre. D'habitude, elle ne me disait pas qu'elle avait si mal au ventre que ça. Je rentre le soir, donc en général, je rentre entre 19h et 19h30. Et là, je la vois dans le lit. Complètement allongée, des cernes, si elle pouvait descendre jusqu'à ses genoux, et là je m'inquiète. Et là je me dis, c'est pas normal, t'es sûr que ça va, t'as pris un doliprane, t'as pris, mais on a peur. Et là elle me dit, oui, ça va. Et donc là on prend décision tout de suite d'appeler les urgences. Donc on les contacte et ils nous disent, prenez un space-fond, prenez un doliprane, ça va aller. Je dis, mais attendez, vous êtes sûr, là on parle quand même d'une grossesse GMLR, il y a des gros signes de douleur de ventre, des contractions toutes les 2 minutes. Ce qui est quand même, en gros, depuis 9h hein, le matin jusqu'au soir 19h, des contractions toutes les 2 minutes, donc ça devait être une belle journée. Et là, elle nous dit, oh, bah non, finalement, venez. Hein, finalement, venez, tout de suite même. Bah, n'attendez pas, venez. Et donc là, on voit menace d'accouchement prématuré. C'était aux alentours du 6e mois et demi, 7e mois. Hein, finalement, le temps, il passe et tout se mélange un peu. Et donc là, ça commence à faire peur. Donc la douleur, elle est là. Et puis, on a le gynéco qui nous dit, bah, vous n'êtes pas dans un timing normal. Vous ne pouvez pas accoucher dans notre maternité, qui était notre maternité de suivi, parce qu'on n'avait pas le bon niveau d'agrément. Hein, donc, il fallait passer sur une maternité de niveau 3. Donc, ça, c'est un point important à regarder quand même. Et donc là, il fallait être transféré. Donc, on s'est fait toute une montagne. On a eu peur. Donc là, on a eu injection de produits. Enfin, moi, je dis « on » parce que je suis très investi dans la grossesse. Et naturellement, d'ailleurs, ça a été un élément de langage qui s'est mis en place avec ma compagne. On parlait systématiquement à la première personne du pluriel. C'était « nous ». C'était systématiquement « on était ensemble » dans chacun des événements. Et puis, on a eu des produits injectés pour faire maturer les poumons des bébés parce que ça, on avait vraiment peur. Pareil, pour le développement neurologique, ben c'était des petits bébés, hein, ils sont deux, donc on s'est fortement inquiété. Le sac n'était pas prêt d'ailleurs, donc là on a fait le sac en 4e vitesse, on a oublié la moitié des trucs. Mais bon, ça s'est passé, les bébés sont pas arrivés, on est reparti à la maison, ça s'est calmé, et puis finalement on est reparti ensuite pour 3 ou 4 semaines. Ce qui fait que quand le jour de la grossesse, le jour de l'accouchement est arrivé, alors, l'événement de l'accouchement en soi, ça a été tout un périple, et j'ai pris une leçon, moi, de résilience et de résistance à la douleur, et vraiment ma compagne, j'ai pris une leçon, j'ai été transformé. Sachant que moi, je me suis senti papa tout de suite. Dès l'annonce, j'ai changé de paradigme dans ma tête, j'en sais rien, vu que c'était un désir profond que j'avais, et j'ai été père tout de suite. Et j'étais père d'abord avec elle, donc je l'ai aidé à se lever, l'huile sur le ventre, j'ai fait à manger, j'ai fait les courses, enfin, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais faire. Et donc le jour où il y a eu la fissuration de la poche des os, c'était un week-end, c'était parfait pour moi au niveau du boulot d'ailleurs, et c'était le samedi midi, donc on s'était mangé un petit truc, un gros truc, hein, parce que la couvade était là, donc elle me dit, tiens, j'ai l'impression d'avoir perdu la poche des os. Bon, moi je me dis, je m'attendais à avoir une flaque comme dans les films, alors ça s'est pas tellement produit, on n'était pas sûr, donc on se dit bon, on verra bien si ça se reproduit, tu me dis, et puis voilà. Et donc le soir même, là on comprend que si, c'était bien une fissuration de la poche des os, les contractions font beaucoup plus mal que ce qu'elles faisaient la première fois, et par contre on n'était pas stressé. Pas stressé, parce qu'en fait d'ailleurs on a rigolé, on dit bah tiens, on a eu un entraînement déjà, donc on a pris notre temps, on a pris notre douche, ça servait à rien de se précipiter, donc on s'est redouché, on a pris notre sac, on a mis une bonne heure et demie avant d'aller aux urgences, puisqu'en fait le pré-travail, enfin dans notre cas il était seulement en train de s'amorcer, et on est arrivé à la maternité, et on a commencé à attendre, à être pris en charge, et puis rentrer dans le cycle de l'accouchement.
Donc, ce jour J de l'accouchement de ces deux petites filles, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu, malgré le Covid, parce qu'on était quand même dans une période de Covid, est-ce que vous avez pu assister à l'accouchement?
Oui, j'ai pu y assister. Et en fait, j'ai un petit peu accouché hein, ce jour-là aussi. Alors évidemment, je ne l'ai pas ressenti dans ma chair comme ma compagne, mais je l'ai vraiment ressenti chaque instant. Profondément, ça, c'est une expérience, vraiment, c'est une sorte d'expérience totale. C'est à la fois le corps et l'esprit qui se mettent à marcher, qui se mettent à fonctionner, à tourbillonner. Et on a eu je pense, l'un des pires scénarios d'accouchement qu'on pouvait avoir. Mais, et ça, c'était une règle qu'on s'était mis avec ma compagne, on a toujours parlé de tout. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Même parfois, quand on n'avait pas forcément envie de parler de certains sujets d'inquiétude, mais on a toujours tout mis sur la table, y compris bah, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. On avait un projet de naissance naturelle, donc par voie basse, et on s'est dit, bah, tiens, ouais, mais si ça ne marche pas, ce sont des enfants jumeaux. Y a une contrainte, par exemple, pour les grossesses gémellaires. Le second bébé, doit venir au monde dans les 15 minutes. Parce que sinon, ça peut provoquer des détresses respiratoires. En gros, il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Mm-hmm. Des risques d'hémorragie qui sont très forts, avec des pertes de sang importantes. Donc, il y a des conséquences pour ma compagne et tout. Et là, on s'inquiétait de cette césarienne. Et surtout, ma compagne avait une peur bleue de la péridurale. Voilà. Donc, ça crée un contexte, je pose les bases. Et donc, le temps se passe. Donc, on a cette amorce le 13 novembre. Mes enfants sont nés le 14, donc on voit déjà le temps hein, qui est passé. Et donc le 13 novembre, on y est. Moi, j'ai pu y assister. Geste barrière, le masque, les blouses, etc. Mais aucun problème. Le personnel qui était très accueillant, très à l'écoute. Donc évidemment, moi, c'était pas du tout une question. J'ai pris le lit couchette et j'ai dormi aux côtés de ma compagne. Et on a passé. J'ai un petit peu dormi, j'ai un peu culpabilisé. Moi, j'ai dormi 1h30. Elle a pas du tout dormi parce qu'elle avait des douleurs terribles. Pas de péridurale encore, parce que le pré-travail était pas assez avancé. Si elle avait injection de péridurale, ça risquait de couper les contractions, reprolonger le temps, avoir des conséquences sur les bébés. Donc les professionnels nous ont bien expliqué tout ça. Une nuit avec un bip là, qui faisait que sonner bip bip bip, le matériel ça fait mal à la tête, des contrôles un peu permanents, toutes les 45 minutes quelqu'un qui vient voir, etc. Et donc une nuit d'enfer. Le lendemain matin, donc du 13 au 14 vers 7h, moi je vois ma compagne, elle peut plus marcher, à ce point que la mâchoire tremblait. Mmh. Donc elle commençait à trembler son corps, puis la mâchoire. Donc là je dis c'est pas possible.
J'appuie sur à bout de force.
Vraiment livide. Elle s'est dit là j'ai besoin. Mmh. Et donc moi on appuie sur le bouton de l'appel malade, parce que ça aussi. Alors je sais pas si c'est courant ou pas, j'en sais rien. Mais cette peur de se dire ok je vais tenir. C'est demain matin, je vais tenir. Et puis là on appuie, on dit on tient plus quoi. Mmh. Donc là examen, on regarde la dilatation du col et c'est pas assez ouvert. C'est pas ouvert, ça a ouvert à peine de 2 cm. On n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout, hein. Sachant que la cible, c'est 10. On n'y est pas du tout. Mais la péridurale, il y a faux. Donc là, même l'examen fait mal. Donc les médecins, Sacha m'appelle le médecin dit ok, je vois que l'anesthésiste dit il faut péridurale. Et donc c'est le moment tant redouté de la péridurale. Donc on s'imagine l'immense aiguille. Enfin bref, on a l'impression qu'on va être transpercé par un espadon ou par une épée. Ça fait super peur. Et j'étais très content parce que j'ai pu avoir un rôle actif. Et ça a été un moment où je me suis senti vraiment acteur de la péridurale. Alors l'anesthésiste, on a eu de la chance, qu'il nous a bien expliqué ce qu'il allait faire, que c'était pas du tout, c'était juste la pose du cathéter, et il n'allait pas en planter une aiguille de dingue dans le dos et la laisser comme ça, donc c'était pas du tout le cas. Et donc moi, j'ai pu être vraiment les yeux dans les yeux, j'ai pu tenir ma compagne, l'aider à arrondir le dos, donc à faire pression sur ses épaules. Donc l'anesthésiste m'a permis d'avoir un rôle moteur à ce moment-là. Et... voilà, on se regardait, on se parlait, j'essayais de la rassurer, vraiment, on était en communion, elle et moi, donc là, c'était un premier beau moment, et donc l'application de la péridurale qui fait pas du tout mal, qui soulage, donc si ça, je peux donner un point de réassurance, j'avais un peu peur aussi, je l'ai pas dit, hein. j'ai fait le fier, bien sûr, mais j'avais un peu peur, et non, ça s'est très bien passé, et donc, immédiatement soulagement, ma compagne a pu dormir un petit peu, et là, en fait, c'est un périple qui a commencé de 7h du matin jusqu'à 22h le soir, où par ailleurs, ma compagne commençait à développer une résistance à l'anesthésie. Donc en fait, on commence à avoir des injections, on voit le temps qui passe, et en fait, un truc qu'on ne nous dit pas dans les films ou même dans les cours de préparation, d'ailleurs j'y reviendrai peut-être sur les cours de préparation,
ouais, puisque
j'ai pas forcément pu assister à tous, et d'ailleurs j'ai eu un petit commentaire là-dessus, mais c'est long. C'est juste long. Donc prenez des distractions, faites des tours, parce que c'est long, quoi. Donc, on récupère du sommeil, on essaye comme on peut, donc dans des fauteuils adaptés. Ma compagne doit tourner à gauche, à droite, commencer à faire des exercices d'expulsion. Donc, ça arrive à vers 18h le soir. Le col est pleinement ouvert. Il faut encore attendre d'être sûr, etc., que les contractions vont bien, que ça va réussir, parce qu'on ne peut pas fatiguer la maman. Et donc, vient le moment de l'accouchement avec des bolus. Donc, en gros, elle a eu pas mal d'injections d'anesthésie en plus, parce que la douleur revenait à la fin, c'était quasiment toutes les heures, heure et demie. Donc l'anesthésiste, heureusement, il n'était pas avare de produits, bien sûr, dans des conditions sécurisées. Hein. C'est lui le professionnel. Mais bien le moment où on passe en salle de travail, et en général, ça c'est variable. Ça peut durer entre, je sais pas, moi, 10 minutes et puis 45 minutes. Là, grossesse gemellaire, donc c'est tout le staff qui est là. Donc vous n'êtes pas du tout seul. Hein. Sage-femme, médecin, gynéco, obstétricien, anesthésiste, il y avait un interne de gynéco, trois sages-femmes, moi j'étais à côté, avec mon rôle de, je devais mettre de la bombe pulvérisée là,
pour rafraîchir.
Ouais, j'ai vite arrêté, ma compagne m'a dit arrête, oui. Tu m'énerves. Donc j'ai vite jeté la bombe, et en fait je donnais la main, et je donnais beaucoup de mots d'encouragement, et en fait les sages-femmes faisaient ça très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une vraie confiance qui était instaurée entre ma compagne et une des sages-femmes. Vraiment, on a été vraiment bien pris en charge. On était rassurés. De manière générale, déjà, ça peut faire peur tout ce monde, mais ils nous avaient tout de suite indiqué comment ça allait se passer, pourquoi il y aurait autant de monde. Donc ça aussi, ça a été rassurant. Et moi, je me suis mis un peu rentré, je serrais, je l'accompagnais quand elle devait souffler, qu'elle devait pousser. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la péridurale ne faisait plus effet. Donc, la résistance à l'anesthésie, il ne pouvait pas remettre une péridurale. Parce que s'il la remettait, ça pouvait... Parce que ça n'empêche pas de ressentir les contractions, la péridurale. On sent les contractions, mais on ne ressent pas la douleur. En revanche, s'il la remettait là, ça risquait de couper et ça avait des conséquences sur les enfants. Donc, après plus d'une dizaine d'heures sous péridurale, eh ben, le travail commence sans péridurale. Donc ça, c'est quand même pas de bol. Et donc là, elle pousse, bébé descend pas terrible. Donc bébé 1, on savait que ce serait Joséphine. Et donc bébé 1 descend lentement. Hein. Et donc au bout 20 minutes, 25, 30, 35, on voit la gynéco prend très rapidement le relais de la sage-femme, parce qu'au début elle se met en retrait, 5 minutes passent et la gynéco regarde le moniteur. Donc là il y a tous les monitos de partout, parce qu'il faut voir les deux bébés, il faut capter les cœurs, hein. Il ne faut pas se confondre parce que c'est un peu compliqué. La gynéco dit « je prends le relais ». Donc là on se dit « ok, si c'est la gynéco spécifiquement qui prend le relais de la sage-femme, ça veut dire... »
Qu'il y a urgence.
Ouais, ou qu'il y a un petit point de vigilance.
Ouais.
Et donc là, le temps passe. Forceps, ventouse. Donc tout ça sans péridurale. Hein. Moi, j'ai vu ma compagne, donc le forceps, c'est quand même pas rigolo. Et tout ça sans péridurale, je l'ai vu tenir avec une démonstration de courage. Et à un moment, le moment est venu de frôler les 45 minutes, la gynéco dit à ma compagne qui s'appelle Margot, « Margot, vos enfants vont naître par césarienne. » Et donc là, il y a deux façons de réagir. Hein, pour la maman qui avait un projet d'accouchement voix basse, qui globalement est en salle de pré-travail et de travail depuis 30 heures, qui souffre depuis ce temps-là, et qui par ailleurs depuis 45 minutes supporte forceps, cuillère, ventouse, toujours sans péridurale, c'est soit on craque, soit on tient. Ma compagne a été directe. « Ok. » Ça va me soulager, ok, on y va. Et donc là, césarienne code rouge. Donc là, on a bien tout connu. Hein. Code rouge, ça veut dire qu'en moins de 15 minutes, les deux bébés sont sortis. Absolument. Et donc là, en gros, la gynéco dit, on reviendra vous chercher. Donc moi, je comprends que c'est l'une des seules fois où je suis mis en retrait. Et donc là, je comprends que c'est plus moi le sujet. Les lits sont débranchés, tout le monde s'active, tac, 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 ça va très très vite. En deux minutes, ma compagne est partie au bloc. Parce qu'en fait, la salle d'accouchement est à côté du bloc. Et donc là, il n'y a plus personne. Je me retrouve seul dans une salle immense. Quand elle est remplie de monde avec un lit, des bruits, ça paraît pas. Mais là, je me retrouve dans une salle. Lumière blanche, d'hôpital, du sang sur le sol. Un moniteur qui est débranché, qui fait que sonner, qui sonne toutes les 10 secondes. Tac, 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 tac. Et moi, je m'inquiète. Je suis seul. Je suis dans ma tenue. Je vois du sang par terre, la lumière blanche qui me fait mal aux yeux.
L'angoisse monte.
Il n'y a plus personne dans le couloir, parce que tout le monde est parti, vu que grossesse à risque, tout le monde est parti assister à la naissance et aider à ce que ça se passe bien. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a des jours qui passent, je m'inquiète. Je vois l'anesthésiste, un pédiatre qui passe, mais lui, il est concentré, donc il ne me calcule pas du tout, pas un regard, rien. Une sage-femme qui arrive en courant, prend l'armoire à la pharmacie, qui se rappelle que je suis là, qui me dit « vous en faites pas, tout va bien », qui me fait deux pouces, qui part en courant. Et ensuite, je reste, moi, pour cette sensation de longueur, alors qu'en réalité, ça a tenu quoi, 7 minutes maximum.
D'accord.
Et on vient me chercher. On vient me chercher, on me dit prenez cette tenue, vous allez venir avec nous, vous allez attendre au bloc. Et donc moi je suis perdu, j'ai des sacs de partout, forcément ça fait plus de 10 heures que je suis dans la salle. J'ai des sacs, j'ai chaud en plus. Là, en plus, j'avais grossi, donc la tenue qu'on m'a donnée n'était pas assez grande. Je me retrouvais engoncé dans ma tenue et je transpirais, et je m'inquiétais. Je prends mes sacs, je suis sage, hop, on m'amène dans une petite salle, je pose tout. On me dit, vous avez prenez votre téléphone. Ah oui, c'est vrai. Donc je le prends et je me retrouve assis sur un tabouret face à des doubles portes coulissantes qui mènent jusqu'au bloc. Je vois des silhouettes, je vois quand même un petit peu par des effets de transparence. De temps en temps, les deux doubles portes s'ouvrent et je vois un peu de sang par terre, je vois ma compagne sur la table d'opération. J'ai des réflexions bizarres qui me passent par la tête. Par exemple, je suis assis, seul, et je me dis, tiens, est-ce que je me prends en photo ou pas ? Quand je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est ridicule. Ça me paraît déplacé de prendre une photo. J'ai pas envie. Mais dans le même temps, j'ai envie que ma compagne voit ce qui s'est passé quand elle était en train d'accoucher sous anesthésie. J'attends. Au total, j'ai dû attendre entre le moment où ma compagne est partie et le moment où j'ai eu la chance de voir mes deux enfants, je pense 45 minutes à peu près, sachant qu'en moins de 15 minutes, les enfants sont nés. Elle n'a pas eu de bol, puisque par ailleurs, elle a résisté aux produits d'anesthésie pour faire la césarienne. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à tester pour voir si oui ou non elle était bien endormie, elle n'était pas endormie du tout.
D'accord.
Et l'anesthésiste, lui, avait du mal à croire que c'était vrai. Avec tous les produits qu'il lui avait injectés, parce que parfois, en fait, c'est psychologique. La douleur, elle n'est pas là, c'est psychologique. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée sous anesthésie générale, ce que les anesthésistes ne veulent pas faire du tout, parce qu'il y a des risques avec l'intubation d'étouffement, je crois. Et donc, à un moment, moi, j'entends un premier cri, puis j'entends un autre cri de loin, on vient me chercher. Et donc, moi, c'était des petits-enfants prématurés. Moi, je rentre sur la pointe des pieds dans la salle, donc je vois les deux couveuses avec les deux bébés. Je vois, il y a à la fois le pédiatre qui s'en occupe, il y a trois sages-femmes, il fait chaleur à mourir, au moins 40 degrés, ce que j'ai ressenti en tout cas. Et je vois deux petits bouts. Et j'ai du mal à croire que ce sont mes enfants. Je me mets une petite larme qui coule, et en même temps, je les trouve tellement fragiles. Enfin, ça paraît irréel, quoi. Vraiment, ça paraît irréel. Ils sont un peu bleus, et des bébés césariennes, ça mousse. Je savais pas que ça moussait des bébés césariennes. Eh ben, si. Donc, ils avaient un petit calot sur la tête. J'avais une de mes petites qui m'a fait penser à Grumpy Cat, hein, c'est le chat, comme ça, un peu renfrogné, qui me fixait, un regard transperçant. J'ai jamais été regardé comme ça toute ma vie. Et c'est là où j'ai compris que mes enfants étaient nés. Toujours un peu gêné, parce que ma compagne était encore sous anesthésie générale. Donc en fait, je la voyais qu'elle était encore endormie, donc moi je me dis, est-ce que je peux m'approcher de mes enfants ou pas ? Et en même temps, je m'inquiète pour ma compagne. Et puis, tout ça passe, moi je les regarde, à un moment tout le monde s'en va, on me laisse regarder la couveuse avec mes deux enfants l'un à côté de l'autre. Ça me fait un peu bizarre, parce qu'ils sont vraiment tout petits, un peu bleus, avec de la mousse qui sort. C'est pas du tout la photo d'Épinal des bébés qu'on voit en fait qui ont 6 mois à la télé, donc ils sont vraiment tout petits. Et puis après on me dit salle de naissance, on me pose en peau à peau les deux enfants avec un jersey, et là c'est super sympa, sauf que c'est super long. Donc en fait dans le peau à peau on se dit ça va durer je crois une demi-heure. Non, ça a duré bonne heure et demie, hein, quand même, je pense, donc au moins une heure.
Les deux bébés.
Deux bébés posés dans un jersey, donc en fait, qui commençaient à me téter d'ailleurs, ça c'était marrant. Ma compagne qui arrive, qui avait du mal à se réveiller de son anesthésie générale, donc elle a réussi à se réveiller, donc elle a pu avoir aussi ses deux enfants. Et donc moi j'étais là, j'étais torse nu avec un jersey, avec les deux bébés posés sur moi qui commençaient à me téter. Et à la fin, c'est super sympa au début, mais après, au bout d'une heure, moi, j'avais chaud comme pas possible. Les enfants rouges tomates, parce que j'avais chaud, ils avaient chaud avec le jersey. Et puis, c'est là où on prend conscience pleinement que. Enfin, c'est bizarre d'ailleurs, on prend conscience qu'on est père, de jumelles, et en même temps, on ne croit pas qu'on est père de jumelles.
C'est pareil, irréaliste.
Ouais, il y a un côté comme ça où on est dans une machine, et puis même encore maintenant, c'est plus de 5 mois, des fois, je me dis, quelle chance j'ai. Je me dis, tiens, j'ai deux bébés, quoi. Et ça me saisit encore. Et puis après, on est rentré dans le cycle de les enfants sont nés, et après on rentre, on devient parent et on apprend tous les jours notre rôle.
Comment s'est passé le séjour à la maternité avec les deux ?
Le séjour à la maternité s'est vraiment très bien passé, et je le dis avec la plus grande sincérité, c'est d'ailleurs le seul fois que je pourrais le dire, je remercie la situation Covid. Pas de visite. Alors ça, quel bonheur. Je me voyais déjà forcé à sourire, ma compagne épuisée, 30 heures de pré-travail, de travail, un accouchement, Enfin, vraiment, c'était olympien ce qu'elle a fait. Et elle se retrouverait en plus à se forcer à sourire, à pas pouvoir dormir, à avoir une césarienne, donc elle peut pas marcher. Il faut s'occuper de deux bébés, donc il faut les laver. Si en plus il fallait se forcer à sourire, parce que évidemment, quand les visiteurs viennent, ils se disent pas qu'on est crevé et que ça fait bientôt 48 heures qu'on n'a pas dormi. Parce qu'après, il y a ce qui s'est passé, c'est une fois l'accouchement fait. Ce qu'on appelle les expressions utérines, donc en fait, pour bien vivre, parce que ma compagne a perdu 1 litre de sang, donc elle était en très grosse hémorragie, donc elle a dû avoir des poches qui sont mises, enfin bref, et en fait, ils appuient sur le ventre pour être bien sûr que tout le sang sorte, pour éviter des ballons, enfin bref, je passe les détails, mais ça fait mal en plus, donc ça, j'ai dû serrer les dents et voilà, et l'assister, mais c'est toutes les heures, donc on n'a pas dormi, donc vraiment pas de visite, quel bonheur. On a eu une visite, par contre, de tout le staff. Donc, on a eu quand même pas mal de visites. Et puis, les premiers instants, ça a été des instants de bonheur. J'ai été naturellement à l'aise avec les enfants. Naturellement, j'ai su les prendre. J'avais pas du tout peur de les manipuler alors qu'elles étaient toutes petites. Enfin, toutes petites. En gros, à peu près 2,750 kg, 2,8 kg par bébé. Ce qui est pas mal.
Oui,
surtout, pas mal. C'est des prématurés de 5 semaines. Donc, par rapport à leur terme, donc nous, des bébés, on a de la chance, ça a toujours été des bébés sur la courbe haute. Ça se confirme maintenant que ce sont de petites filles, très petites à 5 mois, mais quand même, elles sont sur une belle courbe. Donc, j'ai jamais eu peur de les saisir, de les manipuler. Ce qui était un peu bizarre, c'est que ma compagne, forcément, la première semaine, enfin, en tout cas, les premiers jours, les 48, 72 premières heures, entre 48 et 72, j'ai dû m'en occuper à 100% des enfants.
Elle n'a pas pu les nourrir.
Non. Donc nous, l'allaitement, c'était un choix de ne pas faire de l'allaitement maternel.
D'accord.
Il y a une petite pression autour de ça, mais qui s'allège quand même quand on a deux enfants. Parce que pour remettre en perspective, deux enfants, ça veut dire les premiers temps, entre 16 et 20 biberons par jour.
Oui, c'est permanent.
Donc ça veut dire que globalement, on devient une mère nourricière presque à temps plein. Hein. Et donc quand on sort d'anesthésie générale, c'est inconcevable. Quoi. C'est inconcevable. Et puis c'était notre projet, donc pas de complexe là-dessus. Et donc moi je m'en suis occupé, j'ai nourri les deux enfants, j'ai fait l'échange, j'ai eu la chance de faire les premiers bains. Après ma compagne m'a assisté, donc on nous a montré comment changer les couches, vraiment beaucoup de pédagogie. Mais ça m'a tout de suite semblé naturel. Donc je devais avoir ça dans le sang, j'en sais rien, mais ça m'a semblé naturel, donc ça s'est vraiment très bien passé. Et puis j'ai vécu des moments admirables, plein d'émotions. Moi qui pleurais jamais, je me suis transformé en fontaine quasiment à chaque fois que mes enfants faisaient quelque chose, comme si c'était la première merveille du monde et que ça avait jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. J'ai une de mes petites, par exemple, je leur mettais beaucoup de musique classique, et donc elle me regarde, je mets de la musique classique et je vois qu'elle me fixe et elle commence à bouger les mains comme ça, comme un chef d'orchestre. Mais ça a été un moment de pureté. Moi, j'ai été cueilli comme ça, je savais plus quoi faire. Donc évidemment, je me mets à verser ma petite larme. Je trouvais ça incroyable. Et puis ça a été comme ça une succession de découvertes, d'apprentissage. Parfois un petit peu de panique, hein. Quand on a eu le lendemain de la grossesse, par exemple, la première vraie séquence de plusieurs heures avec nos enfants, j'ai une de mes petites, Rose en l'occurrence, qui s'est mis à pleurer. À pleurer, donc moi je me suis levé, j'ai chantonné, elle s'arrêtait quand même pas de pleurer. J'ai appuyé sur le bouton, c'était dans le service de néonat, hein. J'ai appuyé sur le bouton, donc les sages-femmes viennent, je dis, elle pleure beaucoup, est-ce que vous avez une astuce ou quoi? Donc là, elle prend bébé, elle la met en position Bouddha, donc en recroquevillée sur elle-même, pour en fait ça les regroupe, ça les rassure, ça leur rappelle la position qu'ils ont eue pendant plusieurs mois dans le ventre. Et donc je dis, ah, ok, ça marche bien. Donc là, après, au fur et à mesure, on faisait le regroupement, puis on devient plus à l'aise. Et à la fin, on s'en apercevait pas, mais on avait une petite sensation d'étouffement quand même. On est resté un peu longtemps, plus longtemps que normal, hein. Normalement, au bout de 48 heures, vous êtes parti. Nous, on est resté un bon 4 jours, parce que c'était de la surveillance de Margot, puisque deux enfants, parce que la néonate notamment. Mais ça s'est très bien passé, ils sont vite sortis. Hein. C'était un petit peu une néonate d'accompagnement pour nous permettre de récupérer. Et on était content de rentrer parce que déjà les bébés on pouvait les mettre dans leur chambre, et mine de rien quand vous avez vos enfants tout nouveau-nés juste à côté, vous faites penser qu'à ça, il y en a deux, donc en fait quand il y en a deux c'est constant, vous pouvez pas alterner, dire tiens toi tu le prends, moi je dors, ça c'est vous oubliez quand vous êtes parents du mois, c'est vous êtes tous les deux sur le pont tout le temps, donc c'est d'ailleurs je pense que pour l'égalité des sexes il faut que tout le monde ait des jumeaux, voilà. ça va aplanir le problème de la répartition des tâches. ça va disparaître très très vite. Et donc voilà, et on était content de rentrer, et on a réussi à se faire un apéro le soir du jour du retour, donc chargé au possible, hein, parce que deux enfants, c'est l'horreur à quel point ça prend de la place. Même vous, quand vous prenez rien, vous avez déjà quasiment un smirmorgue de rempli, c'est incroyable la place que ça prend, mais on arrive à les coucher, et donc là on est dans notre appart, et puis on commence les premiers instants de la vie, hein. Donc ça a été une grande expérience, et pour le coup ça a été assez formateur, avec du soulagement, assez peu inquiet. Ma compagne, si, elle a paniqué au moment du retour, parce qu'il fallait vider les sacs, parce qu'elle était fatiguée, parce que elle s'en est occupée, bien sûr, assez rapidement. Elle avait récupéré une mobilité vite. D'ailleurs, au bout de 72 heures, elle pouvait remarcher, pouvait faire sa toilette toute seule. Donc, parce qu'avant, il faut aider, il faut que le père soit actif. Hein. Il n'y a pas de choix. Donc, on fait appareil de lever, on fait marche-pied, on fait massage, on fait tout ce qu'on veut. Mais bref, il faut être là à 100%. On fait aussi de la toilette. Hein. Ça, faut le dire. On rase les jambes. Enfin, bref, tout ça, on fait. On devient auxiliaire de soins. Et au moment où on rentre, ma compagne se dit, mais il y a tout ça à faire, quoi. Il faut vider les sacs, il faut commencer à faire les biberons, il faut tout ranger. Tout à la maternité est pensé pour que ce soit facile. Par exemple, vous ouvrez, nous en tout cas dans notre mater, on a de la chance, vous ouvrez le robinet, l'eau elle est tout de suite à la bonne température, c'est facile pour faire les bains. Quand vous rentrez chez vous, c'est pas si clair. Hein. Donc là, je dis, bon, plus important c'est biberon change. Donc on a mis ça en place, puis après on a pris notre temps pour ranger, pas se mettre de pression, s'écouter. Parce que ça aussi, hein, c'est un des risques, de se mettre une pression à devenir environnement parfait, il faut que ce soit instagrammable, donc ça on s'en fout complètement. Et ça nous a permis comme ça de prendre les choses l'une après l'autre, de faire les premiers biberons, puis savoir qu'on est bien chez nous en fait, on est tranquille, et puis ça s'est fait vraiment naturellement.
Est-ce que vous aviez pris un congé paternité particulier ?
Absolument. Oui, absolument. Alors bien sûr, je suis ravi de la réforme des 28 jours. On a un petit peu plus de jours quand on est parents de jumelles, parents de jumeaux, peu importe, et j'avais pris 2 semaines de plus.
Alors c'est quoi un petit peu plus de jours ?
De mémoire, c'est 4 jours de plus.
Donc ça fait 32
plus... et moi j'ai pris 2 semaines de plus, ce qui m'a permis d'être là presque 7 semaines. Donc en gros, je me suis arrêté le 14 novembre, mais c'était un week-end, et j'ai repris début janvier. Sachant que dans mon boulot, j'ai dû parfois retourner travailler, j'ai dû, avec les responsabilités que j'avais, gérer certains dossiers, participer à des réunions importantes. Mais globalement, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon congé paternité. J'encourage tous les pères à le prendre. Alors du coup, moi, j'ai le privilège d'encadrer un certain nombre d'agents et j'ai par exemple quelqu'un qui va devenir père aussi. Et il n'était pas forcément pour prendre tous ces jours. Je l'ai moins incité à le faire. Parce que c'est aujourd'hui, c'est la période la plus heureuse de toute ma vie. J'ai pu découvrir mon rôle de père, j'ai pu accompagner ma compagne, j'ai pu voir des premiers instants de mes enfants. J'ai vécu dans une bulle, vraiment une bulle de bonheur qui ne s'est pas arrêtée. Alors, une bulle de bonheur fatiguée, ça, je pense qu'on en reparlera peut-être, mais une bulle de bonheur, et je ne regrette absolument pas. C'est pas forcément bien perçu quand j'ai voulu prendre mon congé paternité. Par exemple, j'ai un secrétariat pour gérer mes prises de rendez-vous et tout ça, et qui dit, vous allez réussir, vous êtes sûr que vous allez prendre tous vos jours, vous avez beaucoup de choses à faire et tout. Je dis, oui, je vais les prendre, oui. Des choses à faire, mais enfin, au pire, je les ferai pas, et puis ce sera fait quand je reviendrai. Donc j'ai eu quelques réflexions de femmes d'ailleurs. Sur des dossiers qui avaient pris du retard, je dis, excusez-moi, j'étais en congé paternité, donc je reprends tel truc. Et on me dit, ah oui, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est si long maintenant, c'était moins long avant, puis les enfants allaient très bien. J'ai dit, si vous me parlez d'une période avant la guerre d'Algérie, on va peut-être revenir aussi à des temps modernes. Hein. Mais tout le monde n'évolue pas forcément si vite que ça, hein, et pas forcément des hommes d'ailleurs. Et donc, après, une fois que ça a été fait, j'ai pu bénéficier de ça. Faut un petit peu de courage, parce qu'on se dit quand même que ça met un petit coup d'arrêt. Tout le monde regarde un petit peu en se disant, tiens, belle période de congé paternité, surtout que j'avais rajouté 15 jours de plus, donc forcément ça fait un petit trou. Hein.
Mais ils savaient que c'était des jumelles que vous aviez eues.
Ouais, mais d'ailleurs, tout le monde dit. Il y a plusieurs niveaux de réaction quand on annonce qu'on va avoir des enfants jumeaux. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, pour le coup, en tout cas moi, de ce que j'ai constaté. Régulièrement, 70% des cas, les femmes disent, c'est mon rêve.
D'accord.
On dit, des jumelles, oui. Il y a des questions standards, hein, qui arrivent. Par exemple, c'est des vraies ou des fausses jumelles ? Franchement, dites à des parents de jumeaux, est-ce que c'est des vrais ou des faux jumeaux? Faux jumeaux, comme si c'était des jumeaux de seconde zone, de Ligue 2, quoi. Hein. Ça plaît moyen en général. Donc si vous avez envie de poser cette question, la posez pas. Vous le ferez quand même, mais si vous pouvez éviter de le faire, ça serait bien. Donc le vrai faux jumeau, et ensuite. Ça peut aller parfois plus loin, c'est du type naturel, pas naturel. On ne regarde pas du tout ce que ça peut faire, on pose pas de questions sur leur vie. Hein. Donc voilà. Et ensuite, il y a, moi c'est mon rêve. Donc souvent on leur dit, ouais, mais ça c'est parce que vous n'en avez pas. parce que c'est un bonheur incroyable, mais c'est aussi une charge de travail très très forte. C'est vraiment. Parce que des enfants, c'est aliénant, surtout nouveau-né. Hein. Il faut, enfin, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment aliénant. C'est des petits dictateurs, les enfants. Hein. C'est, ça, quand c'est pas content, ça pleure. Quand ça veut pas dormir, ça pleure. Ça te fait beaucoup de sourire. Mais enfin, c'est très exigeant. Surtout quand ils dorment pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chance sur les nuits. Mais ça, c'est la réaction de ça aurait été mon rêve. Quand on rencontre des parents de jumeaux, eux disent bon courage. Voilà. Mmh. C'est tout. Eux, ils sont passés, donc ils savent. Mmh. Et les pères, ça dépend. C'est variable. Les premiers mois, c'est principalement maman. Toi, tu aides sur la nourriture, tu aides sur les couches, mais tu sens qu'il y a une relation un peu fusionnelle avec la mère. Je pense que c'est assez vrai quand il y a l'allaitement. Je pense qu'il y a un lien qui se fait plus entre la mère et l'enfant. Et le père, un peu naturellement, il se retrouve en dehors de ça. Si la mère est fatiguée, il ne donne pas le sein. Et puis, s'il n'est pas forcément simple de tirer son lait, dire, psychologiquement, pour la mère, il faut l'accepter. C'est comme pour, c'est très glamour. Hein. Mais donc, voilà. Et après, il y en a d'autres qui me disaient t'as des petites filles, t'as des petites jumelles, tu verras plus tard les garçons. Enfin, c'est des réflexions assez classiques hein, qui arrivent. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez eu des aides de l'extérieur ?
Des aides, non. On a eu, même avec des enfants jumeaux, en fait, vous n'avez pas d'aide à domicile, vous n'avez pas tout ça. On a été suivi par la PMI. Alors, la PMI, hein, en gros, c'est la protection infantile. Il y a à la fois des conseils qui sont donnés, mais il y a un petit regard aussi pour vérifier que vous êtes bien apte à avoir des enfants et à vous en occuper. Voilà. Quand ils sont rassurés sur le fait que vous savez vous en occuper, bon, le dialogue est vraiment très très sympa. Faut pas hésiter à poser plein de questions sur les laits, justement toutes les démarches administratives à faire. Il faut pas hésiter à les solliciter. On vit assez loin de nos parents, donc à plus de 2 heures de route. Enfin, il y a toujours plus d'1 heure. Donc il a fallu qu'on apprenne à se débrouiller. Ça nous est arrivé parfois d'appeler à l'aide, une fois notamment. Ma compagne, moi, quand j'ai repris le travail, appelé une de ses amies en disant j'en peux plus. Parce que autant un bébé qui pleure, alors je diminue pas l'intensité du bébé qui pleure. Hein. Je dis juste que si le bébé qui pleure fait parfois mal à la tête aux parents, imaginez ce bébé au carré. C'est vraiment vite l'horreur. Hein. Et ça peut transformer en guerre atomique chez vous. Un bébé se met à pleurer, d'un coup c'est l'autre, je sais pas, il y a un phénomène de résonance qui se met en place. De temps en temps c'est très dur à supporter. Enfin, il y a parfois on met une barrière, bon, on dit bon il pleure, et il y a parfois on supporte pas et ça transperce, c'est vraiment, ça passe à travers et c'est l'horreur, et on se met un peu en colère, on se fâche, et donc là on a de la chance parce qu'on arrive à alterner. Quand moi j'en peux plus, je passe à ma compagne, je dis écoute là j'en peux plus. Parfois quand c'est elle, je prends le relais. Ça arrive beaucoup moins maintenant, donc on est plus aguerri, je pense, et puis on sait un peu plus comment réagir. Mais ça nous est arrivé parfois de demander d'aide à des amis, de venir nous soutenir, de venir nous aider. Mais sinon, pas d'aide particulière en dehors de nous-mêmes, hein, c'est tout. Hein.
Vous me disiez que vous travaillez tous les deux dans le milieu hospitalier. Oui. Comment vous êtes organisé aujourd'hui, donc maintenant qu'elles ont 5 mois, pour gérer votre vie professionnelle, votre vie familiale, l'accompagnement des deux jumelles?
Alors, moi, effectivement, je travaille dans le secteur administratif. J'ai un poste à responsabilité. J'étais dans une configuration un peu particulière parce qu'en fait, en juin 2021, donc quelques mois avant la naissance des enfants en novembre, je prenais un nouveau poste. Donc, je change d'établissement dont j'ai pris le pilotage en difficulté. Et qui avait besoin d'être repensé, d'être revu, donc un travail d'intensité. Donc je prends cette période-là, qui met un petit coup d'arrêt à mes projets, qui stoppe un peu mon plan d'action. Surtout quand vous prenez vos fonctions, vous mettez en place une dynamique, vous coupez la dynamique au milieu, donc vous revenez, bon, vous refaites l'effort. J'avais une très grosse amplitude horaire. Je commençais, en plus je travaille loin. Donc je commençais à 7h le matin. Avant mon congé paternité, je travaillais à 7h, je terminais à 21h. tous les jours, avec parfois des périodes d'astreinte. Mais ça, j'ai dû forcément le diminuer. Donc sur l'organisation, aujourd'hui, j'essaye d'avoir du télétravail. Donc c'est pas toujours facile. Normalement, je devrais pouvoir avoir 2 jours par semaine, mais je les ai pas. Donc j'ai plutôt une journée par semaine, mais ça peut être un peu sporadique. Donc j'ai vu avec mon secrétariat et puis j'ai cadencé mes rendez-vous pour faire en sorte que je puisse avoir mon télétravail. Indispensable. Ma compagne est encore en congé parental, donc on sait pas ce que ça fait que de reprendre à deux le boulot. Donc là, on est en période d'adaptation avec notre assistante maternelle, parce que ça aussi, c'est une vraie angoisse. Hein. Et en plus, c'est un vrai sujet multiple. Hein. C'est à la fois la confiance, faut trouver la crèche, les micro-crèches. Quand on a, c'est pour 2 enfants, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut majoritairement oublier, sauf capacité, sauf à pouvoir le financer. Aujourd'hui, en organisation, tant bien que mal, j'essaye de tenir. Alors j'ai plus de retard qu'avant. Ça faut aussi pouvoir l'accepter. Je suis moins alerte. Il n'y a pas de tolérance au boulot. Les gens s'en fichent en fait. Mmh. Hein, ils disent oui, t'es pas trop fatigué, très bien, mais en réalité ils attendent de vous que vous soyez au même niveau de performance qu'avant. Et dans un sens je les comprends, mais ils ne sont pas conscients du
travail que ça représente.
En fait, ils s'en fichent. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais le perso, c'est le perso, le boulot, c'est le boulot. Donc, s'il est fatigué, il est fatigué. S'il dort pas, il dort pas. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des échéances, il y a des dossiers, il y a ceci, il y a cela. On a tous nos problèmes, ils se débrouillent. Et il faut être au rendez-vous.
Et quand vous êtes à la maison, comment vous vous êtes répartis les tâches et les rôles?
Alors, sur ça, ma compagne déteste faire à manger. Donc, c'est moi qui fais à manger. Les biberons, de toute façon, il faut les donner à deux. Alors, quand on est parents jumeaux, on apprend à être une pieuvre. On est ambidextre, donc là encore ce midi, pendant ma période de télétravail, sur la pause midi, d'ailleurs il y a même un moment où j'étais en visioconférence et je donnais 2 biberons en même temps, je coupe la caméra, je fais semblant que j'ai des problèmes de réseau, je coupe la caméra et je donne 2 biberons en même temps, donc c'est une compétence qu'on apprend en tant que parent d'humour. Et puis en termes de charge, alors moi je m'occupe moins du ménage, mais je m'occupe de tout ce qui est nourriture. Les courses, on les fait ensemble. Ensuite, ils ont commencé la diversification. C'est moi qui fais les petits pots. Donc, je fais les purées, tout le bazar. Donc, ça, c'est moi qui m'en occupe. Les biberons à donner, donc, on le fait ensemble. Évidemment, moi, je me lève le matin tous les jours à 5h. La petite se réveille entre 5h30 et 6h20. Donc, moi, je donne un premier biberon à une des deux petites. Je change, etc. La nuit, c'est un vrai sujet, hein, les nuits. Il n'y a pas de bonne solution. D'ailleurs, je le dis. Hein, ils se réveillent les tous les deux en même temps. C'est l'horreur.
Elles dorment dans la même chambre?
Dans la même chambre, ouais. Ouais, c'est important, ça. On a fait du cododo pendant quelques temps. Maintenant, elles dorment dans leur chambre. C'est mieux. Elles dorment l'une à côté de l'autre. Mais quand elles se réveillent ensemble ou qu'elles se réveillent de manière alternative, c'est l'horreur pour les deux. En général, moi, jusqu'à 23h30, j'arrive à me lever. Je me lève, Entre 23h30 et 3h, j'entends rien. Je suis complètement à chaise. Donc là, c'est plutôt ma compagne qui se lève. Et à partir de 3h, 3h30, c'est moi. Donc en gros, là, aujourd'hui, on était parfois sur des rythmes assez intenses où les petites filles, les petites, en gros, toutes les heures, heure et demie, il y avait une tétine à remettre, un cauchemar à calmer. Là, c'est un petit peu moins. Mais en gros, moi, je me lève entre 1 à 2 fois par nuit. Et ma compagne entre 3 et 4 fois par nuit. Encore aujourd'hui, donc c'est. Et moi, quand elle se réveille, je me réveille. Donc forcément, heureusement que c'est un podcast et pas une émission de télé. les cernes vont bien, mais voilà. C'est un peu comme ça que je m'organise. Et puis après, le week-end, c'est je pouponne à 100%. Je change toutes les couches. Et comme je dis, en fait, c'est même pas une question. C'est nécessaire en tant que parent de jumeaux. Il n'y a pas le choix, en fait. Hein. Donc, je suis autant investi, je change des couches. Sur ça, il n'y a pas le choix. Mais c'est, je pense, la configuration même de la gémellité qui fait ça.
Avec le recul, maintenant qu'elles ont 5 mois, et puis tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous m'avez expliqué, qu'est-ce que vous pouvez en tirer?
À titre personnel, c'est vraiment le plus bel événement de ma vie. Vraiment, devenir père. Alors, j'étais prêt à devenir père. Et dans le même temps, je ne savais pas du tout ce que c'était. Là, quand je les regarde, c'est-à-dire qu'elles ont cette particularité. Alors, bien sûr, je considère que mes enfants sont les plus beaux enfants du monde. Je considère que c'est bien sûr le futur de l'espèce humaine qui est arrivé chez moi. J'ai total manque d'objectivité du papa gâteau. C'est du bonheur pur, en fait. Je ne pensais pas que je pourrais aimer autant des petits êtres vivants. Parce que enfin, il n'y a pas de sens, ça n'a pas vraiment de sens d'aimer des enfants en réalité. On les connaît pas, ils font pleurer, ils vous empêchent de dormir, c'est plein de contraintes. Objectivement, il ne devrait pas y avoir de raison, ça devrait m'être un peu énervant, je veux dire, quand on regarde ça de l'extérieur. Et pourtant, c'est vraiment de l'amour, quoi. Alors, c'est mon expérience, hein, je ne dis pas que l'amour au premier regard des enfants, c'est une vérité, c'est pas vrai du tout. Je dis juste que moi, j'étais prêt et je me suis senti tout de suite père et je me suis senti tout de suite éperdu d'amour pour mes enfants. D'ailleurs, c'est drôle, des fois, je rentre du boulot, je suis crevé, je suis énervé des gens que j'ai pu côtoyer, des conneries qu'on m'a racontées. Oh, j'ai eu que des problèmes, enfin vraiment, je me dis, oh là là, quelle horreur cette journée, je rentre, je suis désagréable. Vous savez, c'est ces journées où on ne vous dit rien, mais vous avez un peu envie de chercher la bagarre juste pour vous détendre. Ce type de journée-là. Et je rentre, je vois mes enfants, et ils me sourient, et il n'y a plus rien qui compte. Mmh. Et d'un seul, je ne suis plus fatigué.
C'est magique.
Ouais, mais c'est vraiment un drôle de phénomène. 5 minutes après, ce moment-là, il est passé. Je suis de nouveau crevé. Il faut faire les biberons, il faut nettoyer les trucs. Parce que c'est pour pareil, hein, la charge des biberons, les machins, on prépare des tours. On appelle ça des tours, et on appelle ça les munitions. Donc c'est notre petit jargon. En fait, on a des tours où on prépare les doses pour les biberons. Oui. Ouais. Mmh. Et ça, on doit toujours en permanence, pour une journée, il en faut au moins 12. Forcément, 2 bébés, hein, donc au moins 12 biberons qu'on doit pouvoir planifier. Et donc, ça paraît forcément beaucoup, hein, je pense aux parents qui ont un seul enfant, mais donc il faut faire. Et imaginez, hein, maintenant, elles font des biberons de 240 millilitres, donc forcément, c'est par multiple de 3. Donc voilà, vous imaginez bien le nombre. Donc ça, donc fois 12. Hein. Okay, vous passez votre temps là à remplir des trucs et tout. Mais ça m'a beaucoup appris. Ça met en perspective le boulot. J'ai toujours été extrêmement investi, j'ai toujours énormément travaillé, à pas compter mes heures, à pouvoir travailler le samedi, travailler le dimanche. Je me levais même à 4h du mat, j'envoyais des mails tôt le matin, très tard le soir. Enfin, je m'arrêtais pas, mais j'aimais ça, hein. J'aimais ça, mais je m'arrêtais pas. Et là, maintenant, des fois, je me dis, pourquoi je fais ça ? Il y a un moment d'ailleurs, j'avais une réunion qui a fini tard, je devais voir. Bon, peu importe qui dehors d'ailleurs, mais bon, j'ai dû rester et j'ai reçu une vidéo et je m'aperçois que j'ai cette réunion là d'ailleurs, la personne que je devais voir n'est pas venue. On a fait une réunion quand même avec les personnes qui étaient là, on a parlé d'autres trucs importants, hein, je dis pas, hein. Mais normalement j'aurais dû rentrer chez moi. Et à ce moment là pile où j'étais pas là, mes deux petites filles ont pris conscience l'une de l'autre. Parce qu'en fait, les premiers temps, nous, on nous avait dit, vous verrez, les jumeaux, c'est super, ils se regardent, elles ont leur langage, c'est une alchimie tout de suite, hein. On n'a pas du tout constaté au début, elles se regardaient, elles pleuraient, quand elles voulaient bien se regarder, d'ailleurs, on s'est dit, bah tiens, pas de bol, on est seuls parents de jumeaux, des jumeaux qui s'aiment pas, pas de chance. Et quand ils se sont vus, la vidéo, elle est magique, et ça m'a beaucoup touché, parce que j'étais pas là. Et ça, c'est un moment où on me dit, ouais, mais il y en aura d'autres, ouais, mais pas celui-là. Mmh. Celui-là, je l'ai raté. Et ça met en perspective ce que je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de rater d'autres moments comme ça?
Qu'est-ce qui est le plus important?
Et donc ça remet beaucoup en perspective, ça c'est un apprentissage que j'ai, donc ça nécessite que je fasse de l'introspection sur moi-même, et puis après on réfléchit à sa carrière, on réfléchit à ses projets, je me suis aperçu que plus que ce que je pensais, mon harmonie, parce que je crois pas à l'équilibre vie pro vie perso, je crois à l'harmonie entre les deux, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, mais en fait je m'aperçois que à titre personnel, la part familiale, la part personnelle, elle est vraiment importante, et j'ai pas envie de la sacrifier pour rien en fait. Donc voilà, ça c'est un apprentissage que j'ai eu, et puis après c'est du pragmatisme, hein, c'est du pragmatisme. J'ai appris énormément de trucs, j'ai lu plein de livres. Majoritairement, c'était pas très intéressant d'ailleurs. Quand je m'aperçois que je fais trop de recherches, c'était pas utile. Et je découvre au quotidien mes enfants. Et puis, je suis prêt à l'avenir maintenant.
On est en 2022, vous êtes un papa de 2022. À votre avis, quelle est la différence avec votre père ou votre grand-père ?
C'est de. Moi, je considère que mon rôle est aussi important que celui de la maman. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir une compagne qui me laisse volontairement avoir ma place en tant que père. Parce que par exemple, la première fois où j'ai donné le bain, elle aurait pu le faire en premier. Elle m'a dit, bah non, mais Kevin va le faire. Ça a un peu étonné. On dit, ah bon, ok, très bien. Et donc moi, j'ai dit, ok, je vais changer les couches, je fais le bain et tout ça, mais parce qu'elle me laisse ma place. Parce que naturellement, je pourrais être en retrait, elle pourrait dire, non, faut pas faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est une des règles qu'on s'est mis. Et quand je suis vexé d'un truc, parce que parfois j'ai des fiertés personnelles, le bébé pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et je veux absolument que ce soit moi qui le calme. Et quand elle me dit, bah tiens, je vais te soulager parce qu'elle voit bien que je suis crevé, j'en peux plus, en fait, c'est vraiment juste l'entêtement, je suis complètement mort. En plus, je suppose que l'enfant le ressent, donc il faut que je m'arrête. Je le sais qu'il faut que je m'arrête, mais j'ai pas envie, c'est ma fierté. Donc je me dis, non, 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 elle me dit, bah tiens, tu veux que je t'aide? Non, moi je vais le faire. Je vais réussir à calmer ma fille, et pareil pour elle, hein, inversement. Mais ça, on le fait pas. On essaye de pas se corriger l'un l'autre, voilà, on se laisse faire. Et donc ça, moi je trouve que c'est une des évolutions que ma compagne attend de moi que je sois totalement actif. Et du coup, moi, j'attends d'elle qu'elle me laisse être actif dans mon rôle de père. Ensuite, c'est je suis décomplexé. Je suis décomplexé de justement de d'un rôle qui pouvait auparavant être un précaré de la mère. Changer les couches, moi, j'ai zéro problème. Quand d'ailleurs, on est en soirée, bébé a fait ses besoins, je vais changer la couche. Ma compagne dit, laisse tomber, j'y vais, je m'en occupe. Et je suis même fier de ça. C'est presque un élément de revendication, quoi. J'y tiens. Et d'ailleurs, ça surprend parce que je vois bien, moi, dans notre entourage, les pères, les grands-pères, les tontons, les tout ce qu'on veut, c'est, ah bah t'en fais quand même beaucoup plus que nous on faisait, ça se faisait pas trop à l'époque. Mais ça c'est une des évolutions, cette décomplexion face au rôle du père, et de faut prendre le taureau par les cornes et faut y aller, quoi. Il n'y a pas de fragilité, je veux dire, le bébé, il n'est pas en cristal, donc il faut y aller, ça c'est un vrai... Et une volonté, vraiment aussi une volonté, il y a à la fois le rôle plus grand laissé par les mères, la confiance, la décomplexion que j'ai par rapport à ça, et cette envie aussi que mes enfants se souviennent de moi comme un père qui était là. Moi, c'est ma crainte, ce que je pense qui était moins vrai, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup des moments qui s'échappent et qu'on ne rattrape pas, et on a moins l'envie de se sacrifier totalement et de s'oublier totalement au profit d'un organisme, d'une entreprise, de je ne sais pas quoi. Et je n'ai pas envie que mes enfants se disent « Ouais, mais mon père, il n'était pas là ». Et donc, j'essaie de saisir toutes les opportunités que j'ai, justement, pour compenser ça, et puis voilà.
Quel conseil vous pourriez donner à des futurs papas de jumelles ou de jumeaux ?
Dormez, maintenant. Voilà. Vous n'avez pas envie ? Si, dormez tout de suite, parce que ça va être très rare. Sur la gémellité spécifiquement, c'est dur, mais on fait avec. En fait, c'est beaucoup de logistique, mais qui vient naturellement. Il y a des points d'attention super forts qu'il faut avoir. C'est sur la nourriture. Donc, préparer en amont, voilà, facilitez-vous la vie. Tout ce qui peut vous faire gagner une seconde, alors je ne cite pas de marque, mais les trucs pour faire les biberons très rapidement, ça paraît gadget, achetez-le, c'est pratique. Quand vous faites entre 16 et 20 biberons et que vous n'êtes pas biberon à température ambiante, et ben vous multipliez la minute 30 de perdu fois 16 fois 20, gagnez du temps. Voilà, vous ne mettez pas la pression, faites comme vous pouvez. Et puis après, faites-vous confiance. En réalité, je pense qu'il faut se faire beaucoup confiance. Il y a des conseils qui arrivent tout le temps. Tout le monde a son avis sur la question. Les parents, les grands-parents, l'entourage, tout le monde est passé par là. Tout le monde. Non. D'ailleurs, quand on est parent de jumeaux, on le sait que les autres ne sont pas passés par là, sauf à ce qu'ils soient eux-mêmes parents de jumeaux. Donc rien n'est pareil. On vous dira, laissez pleurer bébé, il va s'habituer à prendre. On s'en fout, ça. Il vous a envie de prendre votre enfant dans les bras, prenez-le dans les bras, point barre. Et puis, de toute façon, c'est vous, les parents, ils ne sont pas contents, bah, ils bougonneront, et puis c'est tout, quoi. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Après, c'est beaucoup de bonheur. Ça ne fait pas si peur. C'est intense sur le sommeil, en fait. Ouais, c'est le sommeil. C'est le sommeil qui est difficile. Il faut s'écouter, il ne faut pas hésiter à faire des siestes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas avoir de complexe là-dessus non plus. Et puis, être prêt tout de suite à avoir une vie sociale quand même qui diminue. Donc nous, on est tout de suite allé parti très vite au resto, mais le midi, le resto du soir, il est beaucoup plus difficile. Depuis là, la naissance des enfants, on est reparti une fois en vacances. D'ailleurs, sur les vacances, oubliez les vacances à l'autre bout du monde. Les premiers temps, c'est terminé, ça. Si vous arrivez à partir à 3 heures de voiture de chez vous, c'est déjà pas mal. Donc, il faut l'avoir en tête. Et puis, faut être modeste dans l'approche. Et puis, faut se laisser porter. Hein. C'est pas si compliqué. C'est intense, mais c'est pas si compliqué.
Merci beaucoup, Kevin.
C'est un plaisir.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.